simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Nous aborderons la question de la guerre en Ukraine et ceci autour de reportages qui ont été réalisés lors de la cantine de soutien qui avait lieu le 7 mars dernier à la cantine des Pyrénées. Afin de récolter des fonds pour soutenir un bataillon de résistants ukrainiens anarchistes. Nous vous diffuserons donc un interview réalisé avec le collectif organisateur et un extrait de la discussion qui a eu lieu à la cantine des Pyrénées ce jour du 7 mars. Pour accompagner ces reportages, nous nous permettrons de vous diffuser la lecture de quelques textes. Ainsi, et afin de poser le contexte, nous commencerons justement cette émission par vous lire un texte que nous avons pu trouver sur Paris Lutte Info. Ce texte a été composé par plusieurs activistes anti-autoritaires d'Ukraine qui ne représentent aucune organisation, mais qui se sont réunis pour écrire ce texte initialement publié le 15 février sur Crime Think. Et les événements qui y sont décrits ont été vérifiés, notamment par des journalistes, mais aussi des anarchistes de Russie, de Biélorussie et d'Europe. Nous décidons de vous lire certains extraits de ce texte, car il replace la genèse de la réflexion de ces différents militants et militantes, en partant des manifestations de 2014 pour en arriver à ce jour, et aux raisons qui les amènent, eux, malgré la diversité de leurs positions, à considérer que la nécessité d'un bataillon et de la participation à la résistance sur le territoire ukrainien est nécessaire. En 2013, des manifestations de masse débutent en Ukraine, déclenchées par le passage à tabac par les Berkout, force spéciale de la police, d'étudiants manifestant contre le président de l'époque, Viktor Yanukovych, et son refus de signer l'accord d'association avec l'Union européenne. Ce tabassage a été un déclencheur pour de nombreux secteurs de la société. Il est devenu évident pour tout le monde que Yanukovych avait dépassé les bornes. Les manifestations ont finalement conduit à la fuite du président. En Ukraine, on parle pour qualifier ces événements de la révolution de la dignité. Le gouvernement russe la présente comme un coup d'État nazi, un plan du département d'État états-unien, etc. Les manifestants et manifestantes formaient effectivement une foule hétéroclite, militants d'extrême droite et leurs symboles, dirigeants libéraux discourant à propos des valeurs et de l'intégration européenne, ukrainiens et ukrainiennes ordinaires sortis pour s'opposer au gouvernement et quelques militants de gauche. C'est le sentiment anti-oligarchique qui dominait parmi les manifestants, tandis que certains oligarques, qui n'appréciaient pas Yanukovych, finançaient la contestation. De même, de nombreux dirigeants et dirigeantes de petites et moyennes entreprises ont participé au mouvement car les proches de Yanukovych ne leur permettaient pas de travailler librement et leur extorquaient de l'argent. Les gens ordinaires étaient mécontents du haut niveau de corruption et du comportement arbitraire de la police. Les nationalistes, qui s'opposaient à Yanukovych, au prétexte qu'il était un politicien pro-russe, se sont réaffirmés de manière significative. Des expatriés biélorusses et russes se sont joints au mouvement, car ils percevaient Yanukovych comme un ami des dictateurs biélorusses et russes, Alexandre Loukachenko et Vladimir Poutine. Diverses forces politiques, dont l'extrême droite, se sont impliquées dans le mouvement et ont tenté d'y imposer leur programme. Elles ont rapidement pris leur marque et se sont constituées en force d'organisation en créant notamment les premiers détachements de combat ouverts à tous et dont ils assuraient l'entraînement et le commandement. Avant le début des manifestations, le mouvement anarchiste était constitué d'individus ou de petits groupes dispersés. Peu d'entre elles et eux affirmaient que le mouvement devait être organisé et révolutionnaire. Parmi les organisations connues qui se préparaient à de tels événements, on comptait la Confédération révolutionnaire d'anarcho-syndicalistes de MACNO. Mais elle s'est dissoute au début des événements car les participants ne parvenaient pas à élaborer une stratégie adaptée à la nouvelle situation. À l'époque, nous ne partageons pas tous et toutes la même analyse de la situation. La présence de l'extrême droite dans les rues a dissuadé de nombreux anarchistes de soutenir les manifestations, car ils et elles ne voulaient pas se tenir à côté des nazis, du même côté des barricades. Cette situation a suscité une vive controverse au sein du mouvement. Certaines personnes ont accusé de fascisme celles et ceux qui décidaient de se joindre aux manifestations. Au final, les anarchistes ont participé à la révolution de Maïdan individuellement et en petits groupes, principalement dans le cadre d'initiatives bénévoles et ou non militantes. Après un certain temps, ils ont décidé de coopérer et de former leur propre centaine, un groupe de combat comprenant entre 60 et 100 personnes. Mais lors d'un enregistrement du détachement, une procédure obligatoire sur le Maïdan, les anarchistes en infériorité numérique ont été dispersés par les militants d'extrême droite armés. Les anarchistes sont restés, mais n'ont plus tenté de créer un large groupe organisé. Ну как дела, братуха? Скажи, ништяк, я улыбнулся, заподозрил, там что-то не так. Как не бывает, так нечестно, так не может быть. Когда вокруг умирают, как ты можешь жить? Барыга, тетка, война меня застала врасплох. Я притворился кривым и танцевал до утра. Еще один анекдот про непокорный народ. И можно смело считать, что мы не ебаный в рот. Не вручает медаль за измену Родине. За измену Родине. За измену Родине. За измену Родине. Le conflit armé avec la Russie a débuté il y a 8 ans. Dans la nuit du 26 au 27 février 2014, quand le Parlement criméen et le Conseil des ministres ont été investis par des hommes armés non identifiés. Ils utilisaient des armes, des uniformes et de l'équipement russe, mais ne portaient pas de symbole de l'armée russe. Poutine n'a pas officiellement reconnu la participation de militaires russes à cette opération, bien qu'il l'ait personnellement admis dans le documentaire de propagande « Crimée, le retour à la patrie ». Il faut comprendre qu'à l'époque de Yanukovych, l'armée ukrainienne était en très mauvais état. Sachant qu'une armée régulière russe de 220 000 personnes opérait en Crimée, le gouvernement provisoire n'a pas osé l'affronter. Après l'occupation, de nombreux résidents ont été confrontés à une répression qui continue encore aujourd'hui. Nos camarades font également partie des personnes réprimées. Sur la question de la désinformation, des rassemblements pro-russes ont eu lieu dans des villes proches de la frontière russe. Les participants craignaient l'OTAN, les nationalistes radicaux et la répression ciblant la population russophone. Après la chute de l'URSS, de nombreux foyers en Ukraine, Russie et Biélorussie étaient liés entre eux par des liens familiaux. Mais les événements de Maïdan ont provoqué une profonde rupture de ces relations. Celles et ceux qui se trouvaient en dehors de Kiev et regardaient la télévision russe étaient convaincus que la capitale avait été conquise par une junte nazie et que la population russophone y subissait des purges. La Russie a alors lancé une campagne de propagande dont le message était en gros « les bourreaux, c'est-à-dire les nazis, arrivent de Kiev et se dirigent vers Donetsk. Ils veulent détruire la population russophone, bien que Kiev soit une ville majoritairement russophone. » Selon nous, la désinformation a joué un rôle clé en 2014 dans la fabrique du conflit armé. Certains résidents de Donetsk et de Lugansk ont eu peur d'être tués et ont donc pris les armes et fait appel aux troupes de Poutine. Le détonateur de la guerre a été actionné, selon les mots d'Igor Girkin, un colonel du FSB, de la Fédération de Russie. Girkin, en tant que partisan de l'impérialisme russe, a décidé de radicaliser les manifestations pro-russes. Il a franchi la frontière avec un groupe russe armé le 12 avril 2014, s'est emparé d'un bâtiment du ministère de l'Intérieur à Sloviansk pour y saisir des armes. Les forces de sécurité pro-russes ont commencé à se rallier à Girki. Quand l'information sur ces groupes armés a commencé à être diffusée, l'Ukraine a lancé une opération antiterroriste. Une partie de la société ukrainienne, déterminée à protéger la souveraineté nationale et se rendant compte de la faiblesse de l'armée, a organisé un vaste mouvement de volontaires. Ceux qui étaient un minimum compétents dans les affaires militaires sont devenus instructeurs, ou ont formé des bataillons de volontaires. Certaines personnes ont rejoint l'armée régulière et des bataillons de volontaires en tant que bénévoles humanitaires. Elles ont levé des fonds pour acheter des armes, de la nourriture, des munitions, du carburant, des moyens de transport, etc. Ces détachements ont fait preuve d'un grand sens de la solidarité et de l'auto-organisation et sont parvenus véritablement à remplacer l'État dans sa fonction de défense du territoire, permettant ainsi à l'armée régulière, mal équipée à l'époque, de résister avec succès à l'ennemi. Les territoires contrôlés par les forces pro-russes ont donc commencé à se réduire rapidement et l'armée régulière russe est alors intervenue. À la veille des négociations entre Porochenko, le président de l'Ukraine à l'époque, et Poutine, qui était censé amorcer un cessez-le-feu durable, les positions ukrainiennes ont été attaquées par des unités bénéficiant de l'appui des troupes russes. L'armée ukrainienne a de nouveau été encerclée et a subi de lourdes pertes. La Russie nie la présence des troupes régulières russes et l'approvisionnement en armes des territoires non contrôlés par les Ukrainiens. Les militaires russes qui ont été capturés affirment qu'ils ont été placés en état d'alerte pour un exercice et que ce n'est qu'une fois arrivés à leur destination qu'ils ont réalisé qu'ils se trouvaient en pleine guerre en Ukraine. Avant de traverser la frontière, on leur avait fait retirer de leur uniforme les symboles de l'armée russe comme l'avaient fait leurs collègues en Crimée avant eux. À proximité immédiate de Donetsk, des journalistes ont découvert des cimetières de soldats tombés au combat. Mais la plupart de ces informations les concernant sont inconnues. Les épitaphes sur les pierres tombales ne mentionnent que le moment de leur mort, 2014. Sur les partisans des républiques non reconnues, les personnes élevées dans la culture, la musique et le cinéma russe craignaient la disparition de leur langue. Les admirateurs de l'URSS et sa victoire lors de la Seconde Guerre mondiale estimaient que l'Ukraine devait s'aligner sur la Russie et étaient préoccupés de la montée du nationalisme radical. On pourrait dépeindre ses opposants comme des conservateurs, autoritaires, partisans de l'ordre ancien. Le camp pro-russe était composé de policiers, d'entrepreneurs, de politiciens et de militaires sympathisant avec la Russie, sinon de citoyens ordinaires effrayés par les fausses informations. On trouvait également dans ses rangs divers individus d'ultra-droite, et notamment des patriotes russes et différents types de monarchistes, des pro-impérialistes russes, ainsi que la Task Force Russiche et la CMP, Société Militaire Privée Wagner. Comme nous l'avons expliqué, la droite est parvenue à s'attirer le soutien pendant le Maïdan en organisant des unités de combat prêtes à se confronter physiquement au Berkout. La possession d'armes de guerre leur a permis de conserver leur indépendance et de forcer les autres tendances à composer avec eux. Il était difficile de les discréditer car la nécessité de combattre les forces de gouvernement de Yanukovych a poussé de nombreux Ukrainiens à appeler à la coopération avec eux. Après le Maïdan, la droite a activement réprimé les rassemblements des forces pro-russes. Au début des opérations militaires, ils ont commencé à former des bataillons de soldats. L'un des plus célèbres est le bataillon Azov. L'extrême droite s'est créé un chemin vers le mainstream. Ses militants ont été régulièrement invités dans les grands médias où on les présentait simplement comme des patriotes ou des nationalistes. Les sympathisants libéraux de Maïdan ont choisi leur camp et ont estimé que la présence de nazis n'était qu'une fausse information créée par les médias russes. De 2014 à 2016, toute personne prête à se battre a été acclamée. Qu'il s'agisse d'un nazi, d'une anarchiste, du caïd d'un syndicat du crime organisé ou d'un homme politique, n'ayant tenu aucune de ses promesses. Aujourd'hui, la droite est toujours puissante, mais sa popularité est moindre et ses dirigeants sont affiliés au SBU, à la police et aux politiciens. Elle ne représente plus une force politique réellement indépendante. Les débats sur le problème de l'extrême droite sont plus fréquents au sein du camp démocratique, où les gens ont développé une compréhension des symboles et des organisations auxquelles ils font face et ont arrêté de balayer le problème du revers de la main. Avec le déclenchement des opérations militaires, une division est apparue entre les pro-ukrainiens et celles et ceux qui soutenaient le soi-disant DNR et LNR, respectivement République populaire de Donetsk et République populaire de Lugansk. Pendant les premiers mois de guerre, il existait une réelle envie partagée de dire non à la guerre. En l'absence d'une organisation de masse, les premiers volontaires anarchistes et antifascistes sont partis à la guerre individuellement. Comme combattants, médecins de guerre, ils et elles ont tenté de former leur propre escouade mais ont échoué en raison du manque de connaissances et de ressources. Certains ont même rejoint le bataillon Azov et l'UN, organisation des nationalistes ukrainiens. La raison était simple, il s'agissait de rejoindre les troupes les plus accessibles. Par conséquent, certains se sont convertis aux politiques de droite. Certaines personnes n'ayant pas pris part aux affrontements ont collecté des fonds pour la réhabilitation des personnes blessées à l'Est et pour la construction d'un abri anti-bombardement dans un jardin d'enfants près de la ligne de front. Il existait aussi un squat nommé Autonomie à Kharkiv. Malheureusement, tout ce projet n'existe plus depuis 2018. Toutes ces actions étaient des initiatives individuelles de personnes et de groupes spécifiques. Elles n'ont pas été menées dans le cadre d'une stratégie globale. L'un des phénomènes les plus représentatifs de cette période est l'émergence de ce qui a été une importante organisation nationale radicale, Autonomie au pire. Elle a commencé à pencher à gauche en 2012 et en 2014. Elle s'était tellement déplacée vers la gauche que certains de ses membres se qualifiaient même d'anarchistes. Ils et elles formulaient leur nationalisme comme une lutte pour la liberté et un contrepoids au nationalisme russe en utilisant les modèles zapatistes et kurdes, par exemple. Relativement au projet politique en Ukraine, ils et elles ont pu être considérés comme s'apparentant le plus à des alliés, de sorte que certains anarchistes ont coopéré avec elles, et eux, tandis que d'autres critiquaient cette coopération et l'organisation d'elle-même. Des membres de l'AO ont également participé activement au bataillon de volontaires et ont tenté de faire germer l'anti-impérialisme parmi les militaires. Ils ont défendu le droit des femmes à participer à la guerre. Les femmes membres de l'AO ont pris part au combat. L'AO a également aidé des centres d'entraînement à former des combattants et des médecins et s'est porté volontaire pour l'armée à organiser le centre social Citadelle à Lviv dans lequel les réfugiés étaient accueillis. En résumé, on peut constater dans le camp de la gauche pro-russe l'efficacité du travail des services spéciaux russes et les conséquences de l'inconsistance idéologique de certains militants. Après l'occupation de la Crimée, des employés du FSB sont allés jusqu'à aborder des anarchistes et des antifascistes lors d'une discussion pour leur proposer de les autoriser à poursuivre leur activité, tout en leur suggérant d'inclure dans leur travail de propagande l'idée que la Crimée devait faire partie de la Russie. En Ukraine, il existe plusieurs petits groupes militants qui se positionnent comme antifascistes tout en adoptant une position fondamentalement pro-russe. Beaucoup de gens les suspectent de travailler pour la Russie. Leur influence est minime en Ukraine, mais leurs membres servent de lanceurs d'alerte pour les propagandistes russes. Les anarchistes d'Ukraine, de Biélorussie et de Russie soutiennent, pour la plupart directement ou implicitement, l'indépendance de l'Ukraine. Malgré sa fièvre nationaliste, sa corruption et la présence sur son sol de nazis en nombre. Vous diffusons maintenant l'interview réalisée avec le collectif qui organisait un repas de soutien le 7 mars dernier à la cantine des Pyrénées au bataillon russe ukrainien anarchiste.
Bonjour, je m'appelle Masha, je suis étudiante en art.
Меня зовут Слава, я анархист, политический беженец во Франции.
Слава est anarchiste, il est réfugié politique en France.
Меня зовут Витя, я политический беженец из России, живущий в Бельгии, анархист.
Je m'appelle Victor, je suis réfugié politique, aussi anarchiste.
Je m'appelle Angelina, je suis étudiante en art.
Vous êtes arrivée quand ? En France, et est-ce que vous voulez témoigner aussi des raisons pour lesquelles vous avez dû partir?
Да, я могу это сказать. Я в России я занимался политической и социальной деятельностью, был участником движения Народная самооборона.
Ça fait 4 ans qu'il est en France. Il y a 4 ans en Russie, ils ont le gouvernement a commencé à oppresser tous les mouvements anarchistes. Ils ont commencé à torturer les gens, voilà, dévoiler leur activité. Et enfreindre ce qu'ils faisaient.
Да, также репрессии коснулись меня. Меня подвергли пыткам, электричеством. И какое-то время мне пришлось провести какое-то время в тюрьме для предварительно задержанных. Меня обвинили в ряде серьезных политических статей. В результате мне пришлось покинуть Россию, и 3 года назад мне пришлось нелегально покинуть.
Alors, Slava a été détenu en garde à vue pendant longtemps pour ses activités.
Prison pour
préventive.
Oui. Okay, ben c'est ça. Il a été torturé avec de l'électricité.
И меня обвинили в ряде статей, политических статей. После этого мне пришлось.
Il a été accusé pour avoir enfreint plusieurs lois politiques. Et après ça, il a dû quitter la Russie illégalement et gagner un statut de réfugié politique en France.
Victor, tu veux témoigner?
Я занимался политической и социально активной деятельностью анархической направленности в Москве.
Alors, Victor a été faisait des activités anarchistes quand il était en Russie. Lui aussi, il a été torturé. On ne lui a pas accusé d'avoir enfreint des lois, mais par contre, on lui a menacé que s'il ne coopérait pas, s'il ne voulait pas coopérer avec la police, ben, il passerait au jugement.
Поскольку ситуация вынудила меня покинуть Россию на следующий день, после этого я
il y a 2 ans, il a dû quitter la Russie pour d'abord partir en Ukraine et puis gagner un statut de réfugié politique à Bruxelles.
Да, но многие наши товарищи, которые не успели сбежать,
et plusieurs camarades qui n'ont pas pu quitter le pays, ils ont été torturés et mis en prison. Presque tous les groupes actifs anarchistes sont détruits en ce moment. Le climat devient de plus en plus oppressant et l'activité devient de plus en plus dure et on s'approche vers un régime totalitaire.
La situation en Ukraine représente un exemple du fascisme impérialiste.
Et ce serait terrible si ce régime-là viendrait en Russie, le même fascisme impérialiste, et ben, on voudrait faire tout ce qu'on peut pour faire en sorte que ça ne soit pas le cas.
Et
il trouve que les exemples d'organisations civiles et qui n'ont jamais entendu parler de l'anarchie, c'est un bon exemple de comment le peuple peut s'organiser pour faire face aux attaques. Et un régime qu'ils ne veulent pas voir.
Да, и хочу добавить, что Путин совсем сошел с ума и угрожает миру ядерным оружием, и это по-моему, хороший
показатель. Владимир Путин devient de plus en plus fou et qu'il ne va pas s'arrêter devant tous les obstacles qu'on pourrait lui mettre. Donc ça part en couille.
Vous avez encore des contacts avec des militants en Russie, là, actuellement. Comment est-ce que les gens essayent de réagir malgré toute cette répression?
Как я сказал, анархистские группы в России уже уничтожены, и есть отдельные активисты, которые выходят неорганизованно.
Il n'y a plus de groupe organisé parce que leur activité elle est quasiment impossible maintenant parce qu'ils se font réprimer. Les groupes sont cassés. Voilà. C'est impossible. Donc non, il y a des initiatives, mais ce sont pas vraiment des groupes, des mouvements complets. Ce sont juste des cas par cas, mais pas de mouvement.
Для примера того, что происходит в России.
Les manifestations contre la guerre sont interdites même si elles se passent en paix. Donc en Russie maintenant, ils ferment les chaînes indépendantes et des sources informationnelles indépendantes. Il y a un exemple, c'est Dosht. Par exemple, c'était une des plus grandes sources et ils viennent de l'interdire. Plusieurs ressources ont été fermées, mais c'est juste un exemple parmi d'autres. Et ils viennent de passer une loi selon laquelle si on essaie de passer de la propagande, qui est en fait juste de l'information vraie sur ce qui se passe en Russie, c'est considéré comme de la propagande anti-guerre. Et on peut aller en prison pour cela.
Vous pouvez avoir 15 ans de prison.
De 3 à 15 ans de prison.
И, наконец, принять закон, по которому любая поддержка Украины в России...
On peut avoir également jusqu'à 25 ans de prison pour, en fait, le support de l'Ukraine. Si on essaie de supporter l'Ukraine financièrement ou par toute autre action, on risque d'aller en prison. C'est une loi légale.
C'est quoi le climat social dans ce pays? Il est comment ce pays? Tu vois, on te parle que de Poutine. Ouais. Et en fait, on ne nous parle pas du tout de la population, de la situation socio-économique, de la répression dans son ensemble,
ouais, bien sûr,
de tout ça. Et je pense que ça fait que les gens ne comprennent pas bien, en fait.
Il faut se rappeler que en Russie, le critique мышление в поколениях истреблялось на протяжении многих лет, et сейчас никакой политической...
Les pensées critiques étaient détruites dans les gens pendant les générations. Donc les gens ne s'organisent pas en groupe pour résister au régime.
Я не согласен насчет многих поколений и так далее. В России еще не так давно были массовые движения.
Slava dit qu'il n'est pas d'accord avec le fait que des générations de pensées critiques ont été éradiquées parce qu'il y a eu quand même des mouvements. Voilà, mais c'est juste que maintenant ils ne sont plus en action. Mais les gens sont toujours critiques. C'est juste que maintenant c'est devenu difficile de s'organiser. Et donc chaque tentative d'organisation, elle commence à être réprimée.
Est-ce qu'il y a eu par exemple des grandes grèves dans le travail, tu vois, ces dernières années?
В России очень слабое рабочее движение, но можем привести... Давай по фразам. В России очень слабое рабочее движение.
En Russie, les mouvements collectifs organisés par les travailleurs sont très faibles.
Но можно привести пример забастовка дальнобойщиков против введения системы Платон, которая была несколько лет назад. Платон — это была система, которую...
Mais un bon exemple, c'est une révolte qui a été organisée par les camionneurs de la société Платон. C'est un système selon lequel tous les camionneurs, hormis les impôts qu'ils payent déjà, ils devaient aussi de leur propre argent payer dans la poche des oligarques.
И это вызвало очень массовые протесты, когда дальнобойщики перекрывали.
И donc il y a eu une révolte des camionneurs qui ont bloqué des endroits dans les villes. Ouais, ils sortaient dans les rues. Voilà, c'était un bon exemple.
Et ils ont gagné?
Они выиграли?
Нет, в России никто не выигрывает, кроме Путина.
Non, en Russie personne gagne à part Poutine. Et c'est vrai. On a déjà expliqué que c'est très dur en Russie, et même quand il y avait Navalny, il essayait d'organiser des protestations, mais je crois que le nombre maximal qu'on a eu dans les rues, c'était quoi? C'était 60 000 personnes. Et même Navalny, on sait ce qui lui est arrivé. C'était une des plus grandes figures qui voulait proposer une alternative aux gens. C'était, mais on voit ce qui s'est arrivé à l'opposition. Il a été empoisonné et maintenant il est en prison. Donc,
Et au niveau des inégalités sociales et du chômage?
Ça se passe très mal parce que les gens, pour vous donner un exemple, la personne, disons une personne qui est à la retraite, il reçoit quoi? 200 euros. 200 euros par mois ou 600 euros, je ne sais pas.
Après, je peux dire que le SMIC français sera un salaire de rêve en Russie.
Oui, c'est vrai.
Maintenant, je crois que les choses seront encore pires. On a calculé récemment combien va coûter un appart, une pièce cuisine à Moscou, et ça sera autour de 40 000 balles.
Ok.
Donc, le niveau de vie maintenant a encore baissé quand c'est déjà pas ouf.
Mais il y a beaucoup même de témoignages sur YouTube en fait de comment vivent les gens en dehors de Saint-Pétersbourg et en dehors de Moscou, parce que dans ces deux villes-là, ça se passe déjà mal. Mais le plus loin on va, le pire c'est pour les gens. Ils n'ont. Les retraités n'ont quasiment aucun moyen de survivre. Les pensions sont très très basses. Il y a beaucoup de problèmes sociaux. Les institutions qui sont censées s'occuper, par exemple, des personnes malades, des malades mentaux, en fait, tout part en couille.
Tout dysfonctionne.
Tout dysfonctionne, ouais. Et ça n'aide pas que le fait qu'il y a beaucoup de chinovniki, как это называется?
Les bureaucrates.
Ouais, il y a beaucoup de bureaucrates corrompus, notamment, donc c'est très difficile. Ouais, l'administration est très corrompue partout, donc c'est dur. Voilà pour les gens.
В России было очень много организованных движений самых разных, от либеральных, коммунистических, ультраправых, но они все были уничтожены люди, которые пытались организоваться.
Ben, comme on avait dit auparavant, il y a eu des initiatives, mais tout a été détruit. Il y en a beaucoup qui sont en prison, et il y en a beaucoup qui étaient torturés jusqu'à la mort. Et ça, d'ailleurs, c'est un autre problème. On sait que quand il y a eu les protestations, chaque protestation qu'il y a eu en Russie, après, plusieurs gens ont été récupérés et torturés. Voilà, et ça peut arriver à n'importe qui. Et hormis le fait que les mouvements sont détruits, chaque tentative d'exprimer son opinion contre le gouvernement ou chaque tentative d'avoir une voix, ça s'opprime.
Выход на акцию протеста карается 30 сутками тюрьмы. Высказывание в социальных сетях может привести высказывание в социальных сетях против политики правительства может привести к нескольким годам лишения свободы.
Si vous participez à des manifestations, vous risquez de passer 30 jours en prison. Non, pas en prison, mais en garde à vue. L'expression de ces opinions sur les réseaux sociaux, notamment, vous risquez quelques années en prison. Il y a des forces organisées policières qui font justement ça. Ils cherchent des personnes qui s'expriment sur Internet et ils les poursuivent. Les actions collectives sont considérées comme un extrémisme. Et voilà, c'est puni. En Russie, en principe, on parle souvent de Poutine, oui, mais le système problématique, il est ancré en principe autour de lui, autour de l'oligarchie qu'il a créée.
Aujourd'hui, vous organisez un repas de soutien, notamment parce que vous êtes en contact avec des camarades en Ukraine. Comment ces liens ils se sont formés?
Между российскими, украинскими и белорусскими анархистами существует множество связей, и мы знаем, что
parmi les anarchistes biélorusses, ukrainiens et russes, il y a quand même une communauté, ils ont des liens. Donc ils savent ce qui se passe avec les autres. Donc ils communiquent en principe. C'est important aussi de préciser qu'il y a 30 ans, on était en URSS, donc c'était un pays. Et qu'au sein de ce pays, l'initiative était créée par un collectif qui était ensemble. Et donc, du fait que ce sont des pays ressortissants de l'URSS, il y a beaucoup qui partagent la langue russe. Et c'est partagé, oui, par beaucoup de territoires qui en ressortent. Et donc, la Biélorussie en Ukraine, on en parle russe aussi.
Нет, в 2014 году еще в России была жива политика, хотя на тот момент уже активно закручивали гайки, принимали многие репрессивные законы, но еще были в том числе сильные анархистские движения.
Il dit qu'en 2014 ça se passait un peu mieux que maintenant parce qu'il y avait quand même des mouvements, voilà.
Et quels sont un peu les retours des camarades avec lesquels vous êtes en lien en Ukraine?
En principe, ils ont une chaîne où ils indiquent ce dont ils ont besoin. Mais en principe, c'est tout sauf les armes, tout ce dont ont besoin des forces pour combattre. Donc, ils ont besoin de protection, ils ont besoin de médicaments, ces choses-là, quoi. Tout sauf les armes. En gros, ils ont besoin d'argent pour pouvoir acheter tout ce qui est nécessaire.
C'est quoi les arguments qui font qu'en tant que collectif anarchistes, on décide de prendre part à cette lutte.
Во-первых, это не только как для анархиста, это для любого человека, это правильно. Это правильно, там абсолютно режим Путина.
Il dit qu'en principe, même si t'es pas anarchiste, c'est clair ce qui va se passer si le régime de Poutine arrive en Ukraine. Donc c'est juste sens commun. Il faut faire quelque chose contre ça. Et je peux dire pour ma part que c'est le cas aussi parce que j'ai jamais été impliquée dans des mouvements anarchistes ou quoi que ce soit. Mais on comprend tous que c'est dangereux et enfin c'est impossible quoi.
Кроме того, там сейчас непосредственный враг, который лишил меня родины, который лишил меня всей моей жизни, и он точно так же лишает жизни и родины миллионы людей, он бомбит города, в ходе этого умирают люди.
Il y a un ennemi qui l'a privé de sa patrie, qui l'a privé de sa vie, et maintenant il est en train de faire la même chose des milliers, des millions de personnes qui sont en Ukraine. On essaye de faire quelque chose quand nous sommes là. On ne peut pas rentrer, mais on essaye. C'est une petite initiative.
Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ?
Свободу народам, смерть империям.
Liberté au peuple, mort aux empires.
Если в городе революция, война, беспорядки, хуй, куда я уебу с этой грядки? Засяду на квартире кура, ну прикину, что к чему. Взвешу все за, взвешу все против и не спеша начну. Начну с аптеки, в плане вырубить сечу или так для потехи. Ну зашел, наебнул фармацевту, ничего интересного не нашел. Спугнул старушку с рецептом, взял трамал, гематоген, ушел. На улице не похоже на курорт, реально трупы, маршрутка в огне. Пронзительный женский крик, мечутся люди, этот драйв по мне. Трое мужчин кого-то пиздят ногами, красное расплывается на снегу. Доскеры в шапочках с козырьками хуячат стекла палаток на бегу. Ущипнул себя сильно за ухо, я не сплю. Такое бывает, хуля, за это Москву я люблю.
Разные группы анархистов сформировали разные отряды.
Donc il y a des groupes anarchistes différents qui ont organisé leur propre milice.
В Киеве организован небольшой отряд организации Чёрный флаг.
Et à Kiev, il y a un groupe qui se nomme Drapeau Noir. C'est un groupe qui agit principalement dans l'Ukraine de l'Ouest. Donc, dans les villes où ils agissent, ils essaient de faire tout ouvertement et légalement.
В городах, где они функционируют, они организуют легальные протесты по всему по различным.
Ils organisent des manifestations légales au sujet des issues politiques, sociales, et ils sont à l'origine de plusieurs initiatives où chacun peut venir participer. Et il y a aussi une organisation qui est beaucoup plus grande et qui compte déjà plusieurs dizaines de personnes. Donc ce groupe-là, il est formé par deux fractions. C'est la première, c'est le groupe Action Révolutionnaire. Et le deuxième, c'est les supporters du groupe de football Arsenal, qui sont antifascistes. Donc l'Action Révolutionnaire, c'est un groupe plutôt radical qui fait face aux nazis dans les rues. Et parmi d'autres choses, ils ont une initiative qui concerne le droit des travailleurs. Parce qu'en Ukraine, c'est un assez grand problème. Vous risquez de ne pas avoir votre salaire et de vous faire maltraiter par votre employeur. Et eux, justement, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent parler, assez fortement avec les personnes qui sont à l'origine des maltraitances des travailleurs.
Donc, si
une personne ne reçoit pas son salaire, ils viennent bloquer les immeubles. Ils viennent parler aux employeurs et essaient de faire en sorte de résoudre cette situation. Donc, ce sont des groupes qui, en principe, ont beaucoup de différences. Il y en a même qui étaient ennemis, mais là, pour le coup, parce qu'il y a cet ennemi commun qui est la Russie, ils se sont rassemblés et maintenant ils sont une force commune.
Dans quelles conditions on pouvait obtenir des armes en Ukraine ? Il y a des règles à respecter, il y a des critères pour distribuer ces armes ? Et combien d'armes ?
Люди приходят в специальный орган.
Donc il y a une institution spécifique où on peut venir signer un papier et puis vous allez être redirigé vers une des fractions de milice existantes, soit vous allez former votre propre groupe ici.
Je voulais savoir si vous savez les deux groupes anarchistes armés. Est-ce qu'ils sont en lien avec l'armée régulière ? Est-ce qu'ils sont montés comme une milice ? Et qu'est-ce que c'est leur lien avec l'armée régulière et les autres milices, logistiquement ?
У них собственно не своя структура, но в конечном счете все, я так понимаю.
Oui, en fait, il a expliqué que les groupes de milices, en fin de compte, ils sont quand même liés avec des forces gouvernementales. Ils sont sous leurs ailes.
Leurs ordres, quoi.
Oui.
Я затрудняюсь на это ответить, но насколько понимаю, у них есть известная доля автономии, то есть, но я затрудняюсь ответить, насколько, ну, то есть, точно, что они, что там есть.
Il dit que c'est assez dur de répondre, mais ils ont quand même une grande autonomie, voilà, même s'ils sont en lien.
Но в любом случае, эти вот группы, которые я перечислял, там «Черный флаг», «Революционные действия»,
Voilà, mais tous les groupes dont on vient de citer, quand on a parlé, bah, ils ont quand même des liens, donc ils communiquent. Et si ça se trouve, s'ils ont besoin, ils peuvent se réunir.
Est-ce qu'ils ont un contrôle sur les appels téléphoniques? Et est-ce qu'il peut y avoir des retombées bénéfiques pour les pour informer de l'extérieur, les Russes extérieurs, attention, on vous dit ça, etc. Voilà, leur dire la vérité.
Oui, ça craint un peu de parler sur le téléphone, les lignes téléphone, mais quand même, on a Telegram qui est très répandu. Genre, mon grand-père, ma mère, ils utilisent Telegram. Et du base, tu peux accéder les chaînes d'actualité où tout ce que vous voulez sera publié, les informations ukrainiennes, les informations de tous les médias. Quelques médias bloqués qui continuent à travailler.
Tant qu'ils n'ont pas coupé complètement, en général, tous les moyens de communication, ce qui est compliqué quand même. Le problème, c'est que tous ceux qui veulent savoir peuvent. Le problème, c'est que ceux qui ne veulent pas. Le problème en Russie actuellement, c'est tous ceux qui ne veulent pas accepter ces informations. Donc effectivement, ça va se propager, la situation économique est déjà catastrophique. Le problème, c'est il est dans la tête des gens. Voilà.
Ah, c'est extrêmement compliqué pour nous aussi, parce que nous sommes russes, mais en même temps, là, être à distance de tout ça, on subit quand même une confusion, une grande confusion.
Bon, on ne vous demande pas de nous soutenir.
Oui.
Ouais. Parce que nous, nos idées, c'est de, par exemple, de sortir tous les garçons à l'âge d'être appelés de Russie. Il y en a, parce qu'ils sont en danger de mort direct, là, presque. Là, c'est le pas, il est court.
Oui. Enfin, nous ne sommes pas là comme des personnes qui savent exactement quoi faire. On essaie de faire quelque chose et on se pose plein de questions aussi. C'est pas que nous sommes des experts, vraiment.
Il y a des anarchistes qui luttent pour l'éradication de l'extrême droite et en même temps... là, il s'agit de faire ensemble face à un ennemi commun. C'est quoi le rapport à l'État aussi, ukrainien? En fait, la question, c'est ça aussi. Là, vous prenez des armes du gouvernement ukrainien. Nous, en France, là, ça fait 4 ans qu'il y a des mouvements sociaux avec beaucoup de tendances sociales différentes. Et il y a beaucoup de gens d'extrême gauche, tout ça, qui ne veulent pas participer à ces mouvements sociaux-là. Parce qu'ils considèrent qu'il y a des personnes qui ne sont pas de gauche, d'extrême droite, de nana. Ça crée une ambiance sociale et au niveau du mouvement social bizarre. Et je me dis, si demain, il y a un envahisseur qui arrive en France et qu'il s'agit de... Enfin, moi, je sais pas ce que je ferais. Je ne sais pas si je prendrais les armes de l'État pour défendre cette patrie contre un envahisseur, même s'il fait flipper. Non, on est d'accord, mais... Je sais pas si je ferais ça. Est-ce que je me battrais avec des gens d'extrême droite? Est-ce que, en gros, nous, ça nous pose plein de questions par rapport aussi à nous, comment on fait de la politique en France.
Я могу объяснить, как это видят люди в Украине, потому что города Украины прямо сейчас подвергаются ракетным обстрелам. Очень много мирных жителей погибают.
Pour expliquer, il dit que en principe là maintenant il y a un grand danger parce que il y a des personnes qui voient leur maison être détruite, il y a des bombes, il y a tout ça.
В Харькове, например, это второй по величине город Украины, он находится рядом на границе с Россией. Это полностью русскоязычный город.
À Kharkov, par exemple, c'est une grande ville en Ukraine où tout le monde parle russe. Et pour le coup, maintenant, ils sont obligés de se cacher dans le métro parce que la ville, elle est constamment sous le feu.
Je peux rajouter encore un détail. Donc moi-même, je suis née à Kharkov. Je comprends tout à fait votre question, mais je pense qu'il y a une telle mobilisation... Et en même temps, cette naissance de la nation ukrainienne qui, effectivement, c'est très compliqué. Il faut passer des heures pour expliquer cette relation entre... qu'est-ce que ça veut dire russe, qu'est-ce que ça veut dire ukrainien. Il faut dire que cette naissance de quelque chose qui a vraiment une identité, c'est très nouveau. Bon, ça dure déjà depuis quelques temps. Mais là, il y a un renforcement de cette mouvance. Et je pense que les sujets dont vous parlez, ils vont ressurgir dans ces fameuses républiques, les LDR, DNR, Donbass. Les Russes brûlent les passeports ukrainiens et délivrent de force des passeports russes. Donc là, l'idée de Poutine, c'est de éliminer l'Ukraine en tant qu'entité. Et je pense que tous ces, voilà, je pense que ça a donné une telle mobilisation, et tout ce qui me revient à moi, des personnes qui se disaient loin de politique ou extrême ceci ou extrême cela, ça va ressurgir.
На постсоветском пространстве все знают, что происходит в России. Если Россия,
donc tout le monde comprend que si le régime, si ce régime-là arrive en Ukraine, ça va être la même chose qu'en Russie. Et dans l'espace post-soviétique, ben tout le monde voit ce que c'est. C'est-à-dire, il va y avoir des répressions de groupes ethniques entiers. Ça va être des répressions de personnes qui essaient d'agir. Ça va être une dictature.
Et все понимают, что если придет Путин, если придет Россия, то это будут массовые репрессии, это будет просто смерть для всех.
Et tout le monde comprend que si ce régime arrive en Ukraine, ça sera des répressions pour des milliers de personnes et il n'y aura aucune autre politique sauf celle de Poutine. Et donc peut-être que dans le futur, il y aura une force anarchiste spécifique qui va se former, mais là, en principe, il y a un ennemi commun.
Qui sont personnes ukrainiennes qui sont et qui luttent depuis quelques années là pour appartenir à la Russie?
Да, здесь стоит сказать, что в Украине действительно раньше было какое-то.
Donc, on dit qu'auparavant, il y avait quelques détentions et des différences entre la partie ouest et la partie est de l'Ukraine. Donc, les régions de l'est, elles étaient plutôt pro-russes et la région de l'ouest était plutôt pro-ukrainienne.
Mais, за 8 лет войны...
Donc la guerre a commencé il y a 8 ans par l'initiative de Russes qui ont attaqué la ville de Slaviansk. Et en fait, cette guerre, pour le coup, elle est, la résistance elle est soutenue par, en principe, soit les mercenaires, soit du peuple, soit l'armée russe.
Mercenaires payés par les Russes.
Когда российские войска входят, наступают, им противостоит все население. Как уже было сказано, есть множество свидетельств того, как в...
Nous avons beaucoup de preuves qui montrent que les personnes, le peuple, quand l'armée russe entre dans le territoire de leur ville, ils sortent dans les rues sous les drapeaux ukrainiens. Ce sont des personnes russophones aussi et qui, quasiment à main nue, vont arrêter tous les tanks, ils vont arrêter tous les chars.
И 8 лет назад, возможно, в этих регионах и было много пророссийских настроенных людей, но за эти 8 лет, и в особенности за последние пару недель, Путин своей империалистической политикой...
Il y a eu auparavant des personnes qui voulaient soutenir la Russie, qui étaient pro-russes, mais là, en ce moment,
c'est plutôt à cause de la guerre qui se passe pendant 8 ans, que les gens étaient déjà pas très si pro-russes comme avant. Et maintenant, je crois qu'il ne reste quasiment plus.
C'est sûr aussi qu'il n'y avait aucun problème. Ça parlait toutes les langues russes, ukrainiennes. C'est un grand mélange dans cette partie de l'Ukraine. Les gens, ils parlent la langue qu'ils souhaitent. C'est des personnes qui ont exprimé et continuent à l'exprimer tous les jours leur appartenance à une nation ukrainienne qui maintenant, ils savent ce que c'est. Et on ne sait pas exactement comment se positionne toute la population russe. C'est un grand pays. Mais on sait, en lisant les réseaux sociaux et en lisant toutes sortes de choses qu'on n'a vraiment pas envie de lire, que Poutine a un grand soutien. Maintenant, il y a quand même cette partie des Russes résistants existe. Des Russes résistants existent. Et c'est d'ailleurs le sujet, les Russes actuellement en Russie, ils sont extrêmement inquiets. Est-ce qu'en Occident, on considère que tous les Russes sont pour le Poutine? Il faut dire que le mot guerre est interdit. Donc dans la presse, on dit, dans la phrase, à la place du mot guerre, on dit le mot qui est interdit. Ça a fait le tour un peu des réseaux sociaux. Maintenant, Facebook, Twitter sont fermés en Russie. Donc on a de plus en plus du mal à avoir un minimum d'informations. Je veux dire, tous ces Russes-là qui sont contre la guerre, ils sont en danger extrême. Et il y a eu une proposition, tous ceux qui appelaient, tous ceux qui sortent pour protester contre la guerre, les recruter et envoyer directement au front ukrainien. Et après, il faut aussi penser que les putschs à haut niveau, et c'est comme ça des fois en Russie que les choses peuvent se passer, c'est très peu probable, ça ne s'est jamais produit, même Staline n'a jamais été renversé. En général, les dictateurs en Russie ne sont jamais renversés. C'est possible et on peut toujours espérer. Je ne peux pas dire que... Mais pour être pragmatique, ça ne fonctionne pas comme on a l'habitude de voir que les choses fonctionnent de ce côté de la frontière.
Мясорубка уличных боев — это ого-го. Граждане ведут себя пиздец импульсивно. В центру города ситуация еще накаляется. Вижу солдат. Вертолеты то низко с шумом зависают, то резко в бок летят. Под ногами везде трещат осколки витрин. Грабежи в разгаре. Звуки автоматных очередей, визг тормозов, запах гари. Щипать себя перестал, не мазохист, ясен хуй, не сплю. Задело, блядь, чуть руку налегаю, натрамал, терплю. Ушел из-под огня в переулке, держу курс к Кремлю.
Vous êtes toujours dans l'actualité des luttes, jusqu'à 13h30, sur Fréquence Paris Pluriel, et nous ne pouvions terminer cette émission sans chercher tout de même à vous dire un mot sur la question des impérialismes. Ainsi, nous vous lisons des extraits du texte publié par A2C intitulé « Pas de guerre entre les peuples, pas de paix entre les classes ». Poutine est à n'en pas douter, un autocrate qui muselle le peuple russe, c'est un boucher sanguinaire qui a massacré plus de 200 civils en Tchétchénie en 1999. Et il n'hésitera pas à en faire de même en Ukraine si les intérêts qui le guident le nécessitent. Mais la violence militaire et la barbarie sanguinaire dont il fait preuve sont exactement de la même nature que celle qu'ont commise à de multiples reprises les États-Unis lorsqu'ils couvraient le Vietnam de napalm, ou l'État français lorsqu'il massacrait des centaines de milliers d'Algériens pour préserver son empire colonial, ou plus récemment lorsque les États-Unis ont mené la coalition pour détruire l'Irak sous un déluge de bombes, ou encore quand Sarkozy bombardait la Libye. Cette guerre n'a rien à voir non plus avec la défense des droits et des libertés d'un peuple, que ce soit les minorités russophones d'Ukraine pour Poutine ou l'intégrité de l'État démocratique ukrainien pour l'Europe et les États-Unis. L'argument de la défense des droits et des libertés des peuples a toujours été l'argument utilisé par les grandes puissances pour s'engager dans les guerres. C'est comme cela qu'a débuté la Première Guerre mondiale, qui a ravagé l'Europe et a fait 20 millions de victimes. Au lendemain de l'attaque russe, l'OTAN a commencé à déployer des éléments de sa force de réaction pour renforcer encore son dispositif de défense et être en mesure de réagir rapidement à toute éventualité. Macron y contribue en déployant des soldats français en Roumanie et en Estonie. L'Allemagne a annoncé son réarmement tandis que l'Europe a décidé d'envoyer massivement des armes en Ukraine. L'engrenage d'une guerre globale se met dangereusement en mouvement. Toutes celles et ceux qui se battent pour l'émancipation des exploités et des opprimés ne peuvent être qu'internationalistes et s'opposer à la domination d'une nation sur une autre. Ils ne peuvent être que totalement solidaires des populations ukrainiennes et exiger que la Russie retire ses troupes. Mais si nous n'avons pas les moyens immédiats d'éteindre le feu en Ukraine, nous devons nous opposer à ce que les pompiers pyromanes de l'OTAN y jettent leur bidon d'essence. Nous devons au contraire exiger la dissolution de l'OTAN et refuser la militarisation de l'Europe. L'effondrement du bloc de l'Est, au début des années 1990, a bouleversé l'ordre mondial de domination issu de la Deuxième Guerre mondiale. Ce fut le début d'un nouvel ordre mondial promu par les États-Unis pour imposer leur hégémonie militaire et économique sur tout le globe. L'OTAN, alliance militaire dirigée par les États-Unis pour défendre les intérêts du bloc occidental, loin de se dissoudre à la fin de la guerre froide, s'est étendue vers les pays de l'Europe de l'Est, encerclant toujours plus étroitement la Russie, économiquement exsangue et militairement affaiblie. Elle a renforcé son partenariat militaire avec l'Union européenne, qui, dans le même temps, s'élargissait pour intégrer ces mêmes pays dans son grand marché libéral. En 1999, lorsque l'OTAN est intervenue militairement en Yougoslavie, plongée dans une atroce guerre civile, il s'agissait plus de s'imposer aux yeux de la Russie comme gendarme du monde que de défendre, comme elle le prétendait, les populations victimes du nettoyage ethnique. Dans le même but, avec l'OTAN ou avec les coalitions Ad hoc, les États-Unis ont mené la guerre contre l'Irak avant de l'écraser sous une pluie de bombes en 2003 pendant qu'ils se lançaient dans une guerre d'occupation de l'Afghanistan qui allait durer 20 ans. C'est dans cette même période que fut lancée la course furieuse vers la mondialisation libérale qui allait impacter toutes les économies dans les programmes de concurrence économique sans retenue de privatisation et de démantèlement des services publics. Si les États-Unis ont réussi à imposer leur hégémonie militaire sur toute cette période, il n'en est pas de même sur le plan économique. Les économies occidentales ne se sont jamais remises de la crise des années 70. La mondialisation des années 1990 et 2000 a vu l'explosion de monstres économiques comme les GAFAM, la multiplication des milliardaires, et ce fut au prix d'une aggravation des inégalités mondiales, d'une explosion de la dette, d'une stagnation, voire d'une baisse du pouvoir d'achat. Tout cela a abouti à la crise mondiale qui a ravagé les économies de 2008, dont elles ne se sont pas encore relevées. Dans le même temps, les États-Unis ont vu leur part de marché mondial diminuer, en particulier au profit de la Chine, dont le PIB a explosé à partir des années 90 pour devenir la deuxième puissance économique mondiale et le concurrent le plus sérieux des États-Unis. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre le déclenchement de la guerre actuelle. La Chine, forte de sa puissance économique, et la Russie, forte de sa puissance militaire, contestent l'hégémonie et l'expansionnisme des États-Unis et de ses alliés. La débâcle états-unienne en Afghanistan et son retrait piteux en août dernier ont sans doute été le signe pour les puissances impérialistes chinoises et russes qu'un repartage du monde était à l'ordre du jour. Alors que les États-Unis s'attelaient dès septembre à mettre en place une alliance militaire pacifique avec l'Australie et la Grande-Bretagne pour faire face à la Chine, qu'elle identifiait depuis longtemps comme la plus grande menace à son hégémonie, les dirigeants chinois affirmaient haut et fort leur volonté d'un retour rapide de Taïwan dans la Chine. Ils s'appuyèrent sur une démonstration de force militaire au-dessus de l'île. Joe Biden s'était alors dit prêt à une intervention militaire au cas d'invasion chinoise. C'est l'accumulation de telles rivalités entre puissances impérialistes qui a conduit, par deux fois, le monde à la barbarie généralisée. Les peuples du monde entier ont tout à craindre de l'affrontement actuel des impérialismes, mais ils ont en mémoire les deux boucheries mondiales. Ils ont aussi la mémoire de la lutte contre la guerre du Vietnam, celle du peuple vietnamien qui a mis en échec la plus grande puissance militaire du monde, celle du mouvement anti-guerre qui a déstabilisé les États-Unis de l'intérieur. Les Russes ont également en mémoire le tribut qu'ils ont payé pour la sale guerre menée par l'URSS en Afghanistan qui a contribué à sa chute. Nombreux manifestent aujourd'hui en Russie pour clamer leur opposition à la guerre malgré la répression féroce de l'État. Face à l'esprit guerrier, la lutte contre le nationalisme doit plus que jamais guider nos actions. L'unité nationale, c'est encore le renforcement des frontières, du racisme et des courants fascistes. L'afflux de réfugiés ukrainiens dévoile comme jamais l'hypocrisie des dirigeants européens et le poison du racisme en Europe. Alors que de centaines de milliers d'Ukrainiens ont fui les bombardements, dont une grande partie en Pologne, les dirigeants polonais organisent le tri à leurs frontières. Des milliers d'étudiants africains qui cherchaient à fuir les combats ont été ainsi refoulés. Si le gouvernement pousse des cris d'orfraie en expliquant qu'il n'y aura pas de tri, c'est pourtant exactement la logique de sa politique migratoire. Le 2 février, 15 jours avant l'offensive russe, Macron, devenu président depuis peu du Conseil de l'Union européenne, tenait une conférence de presse à Tourcoing sur les politiques migratoires. Il a exhorté les pays membres, à renforcer la protection des frontières extérieures. Il a proposé, entre autres, de renforcer la pression sur les États frontières pour qu'ils accentuent leur contrôle, un mécanisme permettant de réintroduire le contrôle aux frontières des États européens défaillants et une politique plus opérationnelle et plus unie en matière d'expulsion des migrants illégaux. Le même jour, 19 migrants ont été retrouvés morts de froid à la frontière entre la Grèce et la Turquie. Depuis le début des années 2000, plus de 38 000 personnes migrantes sont mortes en Méditerranée. Comme les Ukrainiens, elles fuyaient des guerres commises, fomentées, soutenues par les puissances impérialistes, elles fuyaient le feu des armes, en grande partie fournies par l'industrie d'armement française, ou bien elles fuyaient la misère que leur domination génère. C'est cette politique migratoire raciste et assassine que veut maintenant renforcer Macron.
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur. Mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat! Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur 1 sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.
Ainsi, contre leur guerre et le nationalisme, nos luttes.